un acte dramaturgique.
D'ailleurs, si on voulait être tout à fait précis, on arriverait à quelque chose qui serait véritablement de l'ordre du cercle.
Si éramos realmente preciso, llegaríamos a hacer un círculo. Okay.
On y arrivera progressivement de jour en jour. Et cette perfection du cercle, j'imagine, dans deux semaines, on l'aura atteinte.
Espero que d'ici deux semaines, poco a poco, día tras día, vamos a alcanzar esta perfección del círculo.
Alors pourquoi le cercle?
Pourquoi le cercle?
Tout simplement parce que dans un espace circulaire, nous nous voyons tous.
Es simplemente porque en un espacio circular podemos vernos todos.
Dans un cercle,
un círculo,
il n'y a aucun des points du cercle qui ne voit pas tous les autres.
No hay ningún extremo del círculo que no vea a todos los otros.
Il y a une circulation de la parole, du regard d'une part, et ensuite peut-être de la parole.
Hay una circulación de la mirada, de todas maneras, y a continuación también una circulación de la palabra.
Or, cet espace circulaire, circulation du regard et de la parole, c'est ce que je voudrais qu'on puisse faire dans ce séminaire, puisque c'est le nom que nous lui avons donné.
Y eso es lo que me gustaría que ocurriera en este seminario, tener esta circulación de la palabra y de la mirada, porque ese es el nombre que le dimos al seminario, justamente.
Voilà, donc c'était un petit préambule en acte pour vous dire un petit peu ce qu'on va essayer de faire.
Eso es un preámbulo en acto para decirles un poco de lo que vamos a hacer en este día.
Alors, je reprends le mot, séminaire.
Así que, tomo la palabra seminario.
Donc pour dire que, vous l'avez compris, du coup, ce n'est pas un cours au sens traditionnel, professoral.
Veamos que no es un curso en el sentido tradicional de las clases del profesor.
C'est pour ça que j'ai enlevé le bureau.
Por eso saqué este escritorio.
Bueno, me imaginé de le faire disparaître complètement.
Me gustaría que desaparezca completamente, pero...
Par exemple, là, vous ne voyez pas bien, mais vous voyez, on sent qu'on a tenté une chose, mais on n'y est pas, on n'est pas allé au bout. Parce que le bureau, c'est quoi? C'est une... protection, c'est une manière de se mettre derrière ou au contraire de se mettre en avant.
L'écriture est une espèce de barrière de protection sur lequel, detrás de lo que uno se pone en vez de colocarse delante.
Mais en tout cas, ça induit un rapport unilatéral, univoque.
Et eso establece una relación unívoca, unilateral.
Même si depuis derrière le bureau, je peux dire échangeons, travaillons ensemble, faisons circuler. On peut toujours tenter ça, mais on est empêché dans les faits.
Aunque yo le puedo decir, estamos sentados detrás del escritorio, conversemos, discutamos, ¿sí? Pero de alguna manera eso no se produce. Esto constituye como un obstáculo.
Voilà. D'où cette idée de travailler véritablement en séminaire, c'est-à-dire de tenter de faire travailler la connaissance et la pensée autrement que sur un mode universitaire traditionnel, tel que moi je le pratique habituellement. Je ne vous cache pas que je suis universitaire. Je le dis haut et fort. Je suis un pur produit de l'université française.
La idée du séminaire est justement de travailler d'une forme qui ne soit pas la manière universitaire traditionnelle. Aun que on travaille en l'université et soit un produit de l'université française traditionnelle. Mais l'idée de ce séminaire n'est pas ça.
Donc, quand j'essaie de vous parler de ce qu'on va faire, vous avez compris que j'essaie aussi de me présenter moi-même.
Que íbamos a hablar de lo que vamos a hacer, también estaba tratando de presentarme un poco.
Ensuite, je vous demanderai a vous de vous présenter, et ensuite peut-être qu'on pourra faire des choses ensemble.
Sí, yo me voy a presentar, les voy a pedir a ustedes que se presenten, y ahí vamos a ver cómo podemos hacer cosas juntos. Vamos a tratar de hacer cosas juntos.
Donc, je disais, pur produit de l'université française, pour le dire très vite, le pédigré, docteur en philosophie, agrégé en philosophie.
Soy un producto así, puro neto de la Universidad Francesa, doctor en filosofía.
Agrégé.
Catedrático, professeur universitario de philosophie.
Et maître de conférence en études théâtrales. Et les cours de pratique, les cours de production d'artistes, où on fabrique des artistes, des metteurs en scène, des écrivains, des acteurs, et il se passe beaucoup de la dimension théorique. Ils n'ont pas l'impression que c'est central pour eux. Ils sont sans cesse en acte, en travail, en activité pratique.
Están los cursos para la gente que está metida en el trabajo práctico, para los directores, para los actores, y que son personas que están siempre en la práctica y que sienten que no es necesaria la teoría. Y son personas que están siempre en acto, haciendo cosas en actividad, plenamente.
Alors, pour se donner bonne conscience, on s'agite un peu le matin en faisant un peu d'escrime, un peu d'histoire du théâtre, un peu de tai chi et un peu de... Et on peut multiplier un peu l'escrime dans la vieille école du conservatoire, on fait même de l'escrime parce qu'on pense qu'il faut se battre et qu'un jour un acteur aura besoin de manier l'escrime. Alors on fait escrime, tai chi, philosophie, dramaturgie au sens donc étude des idées philosophiques sur le théâtre et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il me semble que j'oublie une discipline. Un peu de danse, tiens, bah oui, un peu de. Voilà. Et ensuite, il y a le tronc commun, la chose importante, essentielle, qui serait le jeu, qui serait l'acte.
Et tout s'organise avec un cours de rime à la mañana, après un cours de dramaturgie, de l'histoire du théâtre, après il y a danse, et finalement, tai chi, lo último, toda cosa práctica, et ça s'estructure en torno à un tronc commun, qui est ce qui a à voir avec la potion.
Mais il n'y a pas de lien qui s'établisse entre les deux moments. De l'autre côté, dans les universités, la théorie est très prédominante chez nous. C'est ça l'enjeu. L'université est un lieu de production de savoir théorique. Là aussi, il y a eu des tentatives depuis mai 68 en France de faire entrer les formes artistiques dans les campus.
También ha ocurrido ahí después del 68 que se ha intentado hacer entrar las formas artísticas a la universidad, a los campos de las universidades.
Donc on a essayé de mettre en acte, de fabriquer en acte des formes artistiques, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient théâtrales, qu'elles soient cinématographiques. On a essayé de faire rentrer l'acte théâtral dans le campus.
Y en ese sentido también se ha tratado de hacer entrar en los campus este acto artístico, ya sea en el teatro, en la plástica. Hemos querido recuperar para la universidad el acto teatral.
Mais là aussi, c'est souvent très artificiel.
Pero
souvent...
también ocurre lo que es muy artificial muchas veces.
Et c'est même parfois tout à fait formel qu'on y fasse un travail concret de plateau.
Y finalmente, cuando se hace un trabajo en el escenario, muchas veces resulta muy formal.
Voilà, donc je vous décris ces deux espaces parce qu'il se fait que je les connais un peu tous les deux. Enfin, j'ai un pied dans l'un, un pied dans l'autre.
Y les describo estos dos espacios porque de alguna manera yo estoy con un pie en cada uno de ellos.
Et que du coup, ça m'intéresse avec vous de réfléchir à la fois aux qualités que peut avoir le paysage théâtral français, mais aussi à ses limites. Et c'est pourquoi il m'importe de vous dire les endroits où, en France, il y a des empêchements et des gros obstacles à l'art théâtral.
Il m'intéresse un peu que conozcan la qualité de l'art théâtral en France, mais aussi montrer quelles sont les difficultés, les obstacles qu'il y a en ce moment dans ces deux aires.
En disant vraiment que l'enjeu de ces six séances que nous allons parcourir ensemble, pas moi tout seul, avec Fernando Gomez-Grande qui parlera ultérieurement, avec Enzo Corman qui va nous rejoindre, Fabrice Melchio qui viendra également, ce qui nous importe c'est d'essayer d'éprouver avec vous cette hypothèse que quelque chose comme une pensée théorique a à voir avec l'acte pratique de l'art.
Lo que queremos hacer en las seis reuniones que vamos a tener, en las seis sesiones de este seminario, con Fernando y con Enzo Corman, que se va a reunir con nosotros la próxima semana, es tratar de demostrar esta hipótesis de que la reflexión teórica tiene un punto de encuentro con el quehacer práctico.
C'est d'ailleurs trop vague de dire comme ça, c'est plus que à avoir, et véritablement un levier, j'allais dire un outil, c'est pas le bon mot, quelque chose qui lève, un levier littéralement, quelque chose qui lève l'acte artistique.
Es una palanca. En realidad, la reflexión teórica es una palanca que puede elevar el acto artístico. No solo que tenga que ver, que hay una relación, sino que puede impulsarlo como una palanca, realmente.
Y me semble, alors c'est une hypothèse que je formule, il me semble que les gestes artistiques importants en France, et peut-être peut-on l'élargir, mais maintenant nous à la France, sont des gestes où l'artiste a véritablement un soubassement théorique et philosophique fort.
C'est une hypothèse, mais j'ai l'impression que les mouvements artistiques, les œuvres importantes qui sont faites en France, ont été faites par des artistes qui ont une base théorique et de réflexion importante.
Qui prend plein de formes, hein. C'est pas pour vous dire que pour être un grand artiste en France, il faut faire de la philosophie. Hein. Ça peut prendre plein de formes.
Esto puede tomar muchas formas, no quiere decir que para ser un gran artista en Francia uno tenga que ser un filósofo al mismo tiempo. Tiene distintas formas de manifestar, funcionar.
Par exemple, Valère Novarina, dont vous avez pu voir l'année dernière un texte mis en espace dans la semaine de dramaturgie, lui, son grand souci, c'est les théories de la matière, c'est les physiciens. Et pour moi, ça fait partie de la philosophie. Je veux dire par là que c'est une réflexion générale qui se donne un objet artistique, qui se traduit dans un objet artistique, dans une œuvre artistique.
En el caso de Valerio Novaina, que mostraron una obra el año pasado en la semana de teatro, en el caso de él, él no está relacionado con la filosofía, con la ciencia de la materia, con la física. Y eso, de alguna manera, ese conocimiento teórico se traduce en una obra de teatro. Entonces eso es a lo que se refería uno cuando decía que había, y para él la física tiene que ver con la filosofía también, que hay un sustento de reflexión teórica que sirve, que está al servicio de la obra y que se traduce en una obra.
Et pour ces différents artistes, nous prenons quelques exemples d'ailleurs parmi ceux qui sont actuellement, je dirais, en travail au Chili ou dont le travail est visible au Chili. Pour tous ces grands artistes, il y a toujours une volonté à un moment donné de prendre du recul et de se mettre à écrire sur un mode qu'on ne peut pas s'empêcher de dire théorique, ou en tout cas un mode à distance de leur travail.
Et tous ces grands artistes, comme vous le pouvez voir en Chile, il y a un moment dans lequel ils prennent distance et se ponent à écrire de manière théorique. Ils prennent distance de la création dramatique et écrivent théorie.
Alors, sur les trois exemples donc, d'écrivains français dont vous pourrez voir, dont vous pouvez déjà voir les œuvres sur un plateau au Chili, il y en a un qui est peut-être un peu jeune, on lui demandera, peut-être qu'il a des choses cachées dans ses tiroirs, mais Fabrice Melchior, à ma connaissance, n'a pas publié le texte réflexif, un peu en suspens, mais les deux autres, c'est le cas. Olivier Py et Enzo Corman publient des textes, dont d'ailleurs, très récemment dans l'actualité, deux textes, l'un d'Olivier Py et l'autre d'Enzo Corman, publient des textes où ils réfléchissent sur ce qu'ils ont fait pendant des années sur un plateau de théâtre. Et Valère aussi, dont nous parlions à l'instant, mais je parle de ceux qui sont dans une actualité immédiate. Hein. Mais Valère, bien sûr, il a théorisé beaucoup.
En el caso del joven que ustedes pueden ver ahora, de Fabrice Melchior, que es más joven, pero en el caso de Enzo Corman y de Olivier Py, son personas que han escrito sobre el trabajo que ellos han realizado en el escenario durante un periodo largo, varios años, se han sentado después y han escrito, lo mismo con Valerio Novaina, y han escrito sus reflexiones en torno a ese trabajo escénico.
Donc voilà, c'est pas pour vous dire qu'ils ont raison et que ceux qui font pas ça auraient tort, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pour dire qu'il y a quand même, voilà, je sens, nous sentons une familiarité, une sorte d'accointance entre philosophie et théâtre en France.
Donc, eso no quiere decir que ellos estén en lo correcto y que los que no lo hacen estén mal. Pero sí nos lleva a pensar que hay una relación entre la filosofía y la reflexión y el quehacer teatral en Francia, es importante.
Cette relation peut-être qui est aussi très conflictuelle. Il ne faut pas penser que ce serait totalement réconcilié et qu'il y aurait une sorte d'avancée sur le chemin, pas à pas, main dans la main. Non, c'est très conflictuel aussi, c'est très compliqué, ce lien philosophie-théâtre.
Et tampoco hay que pensar que esta relación entre la filosofía y el teatro es una relación así toda fantástica, que vayan los dos felices caminando por el bosque. Es una relación que está llena de conflictos, no está resuelta.
On a par exemple beaucoup reproché à une génération qui n'est pas la mienne, une génération d'avant, de s'être servi de Bertolt Brecht et d'avoir totalement asséché artistiquement l'espace théâtral.
Une génération antérieure à la mienne, nous, se les critiquait beaucoup que se habían servido de Bertolt Brecht et habían desecado complètement le scénario.
C'est ça, oui, asséché, c'est vraiment ça. Et pourtant, on en a besoin. Vous voyez, c'est un mouvement contradictoire. On a besoin de la théorie, et à un moment donné, elle peut être un étouffement, elle peut être asphyxiante.
Sí, y hay una relación ahí que es importante que necesitamos la teoría por una parte, pero en cierto momento puede llegar a asfixiarnos.
Donc peut-être à un moment donné, faut-il aussi l'oublier totalement quand on est artiste, quand on est dans un geste créateur.
Cuando uno es artista, está en un gesto creador, a lo mejor hay veces en que hay que olvidarse completamente de la teoría.
Hein, donc je vous dis tout ça pour qu'on se comprenne à peu près bien, pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que vous ne croyez pas que je suis en train de venir avec des recettes, des miracles pour produire une œuvre et qu'il faudrait avoir lu Platon, Aristote, Saint-Augustin, jusqu'à Nietzsche en passant par Diderot et que tout ça ferait une bonne et une grande œuvre.
C'est pour que nous entendamos bien, no haya malos entendidos. Yo no vengo aquí a decirle que para escribir una gran obra de teatro hay que saber filosofía y hay que haber leído a Platón y Aristóteles y Nietzsche pasando por Diderot y San Agustín. No es esa la idea.
Mais si on a eu l'idée de construire ce séminaire sur différentes formes de réflexion théâtrale en France, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette chose qui pour nous était assez évidente, même si un peu conflictuelle, pour vous ne semblait pas l'être. Donc nous sommes venus l'année dernière.
Porque nos pareció que había algo que para nosotros era muy evidente, que era esta relación entre la filosofía y el teatro, aunque fuera una relación compleja que no estuviera resuelta, que ese dato era algo que para ustedes, para nosotros en Chile, no estaba claro. No era algo que estuviera dado como estaba dado en Francia.
En todo caso, lo que habíamos sentido, Enzo, Fernando y yo, durante esta discusión con algunos de ustedes, no sé cuántos de d'entre vous était là ce jour-là.
Qui était
avec Raimundo seulement l'année passée, quand
nous étions Enzo et Fernando Lambert.
Un, deux. Ouais, c'est pas beaucoup. Peut-être que pour vous, c'est pas la même impression qui va se dégager, mais je me souviens qu'il était apparu que cette forte présence de la philosophie, pour dire vite, hein, la philosophie, encore une fois, c'est un terme là, mais cette forte présence de la philosophie ne semblait pas si évidente, si naturelle, dans l'espace du théâtre chilien.
Ustedes tienen otro recuerdo que yo de esa reunión, pero a nosotros nos pareció que no que esta relación entre el teatro y la filosofía en un sentido muy amplio, una palabra que habla mucho, no era evidente en Chile.
Ça, c'était une première remarque qui nous avait donné l'impulsion du séminaire.
Eso fue lo primero que nos impulsó a hacer este seminario.
Et puis il y avait une deuxième impression très forte qui nous était apparue, me semble-t-il. Tu diras, Fernando, si j'oublie ou si je. C'était quand on a commencé à vous faire le récit des liens qui, sur mettons les 50 dernières années, unissaient le théâtre et la politique. La pièce d'Enzo Gorman, qui a un enjeu politique très, très fort, hein, puisqu'il s'agit vraiment du drame du XXe siècle en Europe, qui est au cœur de cette pièce, on avait senti que la pièce d'Enzo Gorman avait des résonances très fortes ici au Chili. Et on avait le sentiment que ça valait le coup de continuer à creuser ce questionnement.
Y que valía la pena seguir profundizando en ese cuestionamiento. Es una obra que, a pesar de la obra de Enzo, se sitúa en Europa, en la guerra, en este siglo, digamos. Pero que, a pesar de eso, de situarse allá, resonaba en Chile mucho.
Y puis, on avait le sentiment qu'il ne fallait pas le faire sur un mode abstrait, général, universel, mais qu'il fallait le faire en s'appuyant sur des exemples, des cas, des figures concrètes. Donc il était très intéressant de revenir au moment de la semaine de dramaturgie, moment où il y a des œuvres concrètement présentées au public chilien. Et
nous avions envie de faire cette réflexion, non en forme abstraite, en l'air, mais de la faire en prenant des exemples concrets. Et pour ça, nous avons pensé que le meilleur moment pour faire ce séminaire era ahora cuando se está haciendo la semana del teatro europeo y se están presentando las obras francesas, alemanas y españolas. Entonces podemos trabajar con eso. Eso es ejemplo.
Voilà. Et puis la quatrième observation qui nous est venue à l'esprit, c'était aussi de se rendre compte à quel point, en parlant avec des gens qui, en apparence, sont loin, enfin qui déjà physiquement, géographiquement sont loin, et qui en apparence le sont, pour des raisons de langue, des raisons de culture, on vérifiait que dans ce drôle de rapport à la fois proche et lointain, naissaient des questions à la fois communes et aussi une manière très, comment dire, très distanciante de les poser. Ah, si je suis très clair. Non, si je suis très clair.
La première partie était très claire. Y tuvimos una cuarta observación respecto de este encuentro, ¿no? Y que tenía que ver con el hecho de que, a pesar de estar tan distante, tan lejano, distantes por el idioma, porque estamos físicamente lejos, por la cultura, que es diferente. ¿Había preguntas?
Et alors, on s'est rendu compte que, du coup, échanger avec un public chilien, avec des jeunes étudiants chiliens, nous faisait regarder autrement notre propre culture et notre mode de questionnement.
que al encontrarnos con jóvenes estudiantes chilenos y al conversar, el intercambio que ahí se producía, nosotros veíamos nuestra propia cultura de otra manera.
Et je dirais pas ce que nous obligeait à questionner autrement notre propre culture, à la regarder autrement.
Nous obligeait à questionner notre culture de autre manière, à regarder de autre manière.
Par exemple, on en arrivait à se poser cette question toute simple que nous allons nous poser ensemble. Quels sont les textes importants sur lesquels il faudrait se pencher pour commencer à répondre aux questions que j'ai évoquées tout à l'heure?
Par exemple, nous nous demandons quels étaient les textes importants à lesquels il fallait se volcarse pour répondre aux questions que j'ai posées jusqu'à présent. Les textes français sont importants. Esa fue una de las preguntas que nos planteamos después de ese encuentro.
Pour le dire autrement, quelle serait la bibliothèque idéale de poche qu'on pourrait venir apporter ici, sur laquelle nous pourrions nous accorder pour dire voilà les enjeux importants du théâtre en France depuis 30 ans.
Pour decirlo de esta forma, ¿cuál sería la biblioteca de bolsillo que habría que tener para que pudiéramos, para ponerla aquí, decir en estos textos vamos a encontrar las apuestas de los últimos 30 años del teatro en Francia, las preguntas importantes, lo que hay que, sobre lo que vamos a conversar, lo que podemos encontrar las respuestas?
Ça, c'était le point de départ de la réflexion. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, il y a même certainement une possibilité de fabriquer un montage, de fabriquer un déploiement de ce paysage de réflexion, de trouver le moyen de les organiser.
Esa era como la primera solución. Después había una segunda etapa que era encontrar una forma de organizar esta reflexión, de desplegarla.
D'où l'idée très concrète, qui est une hypothèse, je ne sais pas si nous y arriverons, d'où l'idée très concrète d'imaginer, de fabriquer depuis le lointain pour nous, c'est-à-dire depuis ici, quelque chose comme un livre de référence philosophique théâtrale qui puisse, au fond, rendre compte d'une situation donnée en France, qui puisse le rapporter en France, qui puisse dire en français aux Français, voilà ce que nous avons pensé, voilà l'état des lieux de ce que nous avons pensé.
Aquí es una hipótesis, digamos, lo que pudiera resultar de este encuentro, de este seminario, es que pudiéramos volver a Francia y llevar el resultado de esta reflexión en francés para los franceses. O sea, a través de esta búsqueda del estudio de estos textos, hemos encontrado esto, y eso devolverlo. Que eso es una hipótesis de trabajo, digamos, hay que ver si funciona.
Ce qui me paraît être un geste assez expérimental, hein, il faut le dire, ça se fait pas trop. Enfin, on aurait alors il y aurait la version manuel scolaire. Qui n'existe pas beaucoup pour les études théâtrales, mais qui pourrait prendre ça comme modèle. Nous ferions un manuel scolaire, je dirais, qui aurait été morceau choisi, qui dirait voilà les grands moments, et puis alors voilà le digest, quoi, façon courte et immédiate, efficace.
Lo que existe es el manual escolar, que podría ser un manual, un texto de colegio, digamos, que diga estos son los grandes momentos del teatro y que estén recopilados ahí. Y entregar eso, como de detalles también.
Y c'est pas du tout ça l'enjeu, enfin, c'est pas du tout cela que nous souhaitons explorer.
No es eso lo que vamos a explorar aquí.
Ce serait véritablement de comprendre des mouvements de pensée, comment des pensées se sont mises en mouvement.
La idea es ver cómo hay pensamientos que se han puesto en movimiento.
Comment elles se sont contestées elles-mêmes, comment elles ont été contestées.
Cómo se respondieron a sí mismas.
Ou comment nous pourrions les contester.
De poner en discusión.
En trouver les limites, en trouver les.
Encontrar los límites de esos pensamientos.
En trouver les carences, en trouver chercher en quoi ce qui était satisfaisant à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui.
Buscar en qué sentido alguna de ellas era satisfactoria, satisfacía ciertas necesidades en un momento y ahora ya no las satisface.
Et puis vérifier comment il y a en fait dans un paysage théâtral donné différents points de vue, différentes familles, différents points de vue.
Et comment dans un panorama théâtral complet, il y a différents points de vue qui s'opposent, se complémentent, différentes familles de pensamiento.
C'est une manière de procéder qui n'est pas très habituelle. C'est
une manière de procéder qui n'est pas très commune, très habituelle.
En tout cas, alors, disons bien qu'on va prendre une tranche historique de 30 ans.
Vamos a tomar un periodo histórico de 30 años.
C'était vraiment l'après 68.
Hein? Después del 68.
Les années 70. C'est-à-dire, pour être très simple, enfin, très concret, ça veut dire deux générations.
Para ser bien concreto y simple, dos generaciones, en el fondo.
Concernant, la génération, et fou concernant, a fortiori, la génération des pères, hein, la génération d'après 68, mais donc pour nous, celle qui vient avant, quoi, celle d'avant nous, et puis la nôtre.
Y eso quiere decir la generación después de 68, que son nuestros padres, y la generación nuestra.
D'ailleurs, si vous voyez les trois figures théâtrales qui vont être convoquées là, à quoi artistique concret, vous en avez deux de notre génération. Je prends une génération de vingtaine d'années, vous voyez, je fais des, à la louche, ça c'est pas 10 ans, c'est un peu. Il y a plusieurs définitions de la génération, moi je. Il y a plusieurs
définitions de la génération, no te tomando 10 años.
On la prend large là.
Si la estamos tomando un sentido amplio.
Vingtaine d'années.
Una veintena.
Alors vous avez donc deux représentants de la génération actuelle, Olivier Py et Fabrice Melchior, qui sont. 28, 37 ans. Olivier Py,
Fabrice Melchior, qui
ont
28, 38, 37.
Olivier Py, il a
37 ans. Olivier Py, il a
37. Et vous avez Enzo Corman et en effet Novarina, si on le reconvoque, qui sont de la génération d'avant.
Enzo Corman et Valeria Novarina, si nous tomamos también, qui sont de la génération antérieure. Non.
Sí, fue bien.
Para que lo vean en el programa, no, cuando se presenta la obra en el diente.
¿Esa forma?
Y Valeria Novarina. ¿Qué edad tiene Valeria exactamente?
55.
55.
No más.
No.
Cinquantaine d'années.
50.
Oui, on, ça, ça compte. 10 ans, chaque an.
50.
50, très content.
Simplement travailler en termes de génération comme ça, c'est pas une manière très habituelle de.
Travailler pour génération, c'est pas une forme très commune de réflexionner.
Et pourtant, moi, je reste absolument persuadé que la notion de génération a absolument fondé politiquement tout le développement intellectuel de la France.
Y sin embargo, a pesar de que eso no se haga habitualmente, yo estoy convencido de que el desarrollo de pasar por el tipo de Francia está basado en la idea de la generación, en ese tipo de división.
Y qu'on comprend beaucoup de choses quand on s'intéresse aux phénomènes culturels, artistiques, intellectuels, en parlant à partir des générations.
Y que uno entiende muchas cosas de los fenómenos artísticos, culturales, teatrales, cuando parte reflexionando sobre ellos desde esta idea de la generación, desde el punto de vista de la generación.
Je vais juste dire une formule, après on va déplier ça
longuement.
Pour le dire en une formule, la génération d'après 68 a construit un monde possible qui ne s'est trouvé réalisé dans aucun possible, qui n'a pas réussi à se mettre en œuvre et qui s'est retourné contre lui-même.
Qui n'a pas réussi à concrétiser en ninguna parte y que se volvió contra ellos.
Et qui ne cesse aujourd'hui, chaque jour davantage, de se retourner un peu plus contre lui-même.
Y que cada día más se le vuelve en contra, hoy en día.
Je ne ferai pas que des amis en disant ça. Le but n'est pas de se faire que des amis, le but c'est de réfléchir à l'ordre moral terrifiant qui aujourd'hui revient dans mon pays. Donc ça n'est pas agréable à vivre, donc pas agréable à dire.
Esto no es algo agradable de decir ni algo agradable de vivir, y la idea no es hacerse amigos sino reflexionar, y esto tiene que ver con la el orden moral francés en este momento de Francia es ese, entonces tenemos que reflexionar sobre eso que no sea muy agradable.
Pour ne vous donner qu'un exemple, il y a un petit essai qui vient de paraître aujourd'hui dont la thèse principale consiste à réfléchir sur le fait que la France est en phase de décadence.
Il y a une théorie qui est révolutionnaire, qui est que la France est en une étape de décadence.
Donc vous avez ce vieux motif de la droite, de l'extrême droite européenne, qui a toujours travaillé sur ces fondements-là, c'est-à-dire le pays est en période de décadence, il faut donc une solution exceptionnelle. À situation exceptionnelle, il faut une solution exceptionnelle.
Il y a un argument de la droite, parce que la France est en un période de décadence, en une situation exceptionnelle, et face à cette situation exceptionnelle, la solution aussi doit être exceptionnelle.
Tous les fascismes ont toujours fonctionné sur ces ressorts-là.
Tous les fascismes ont utilisé ce recours, ont fonctionné à partir de ce recours.
Voilà, vous voyez, très concrètement, dès qu'on commence à prendre une question, on est devant des questions politiques. Je crois qu'on soit bien clair sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire de la politique ici. Il s'agit de réfléchir sur les incidences et les implications politiques d'une réflexion sur l'art.
L'idée ici est de quelles sont les implications politiques que tiene la réflexion en l'art. Nous ne sommes pas parlant de la politique en majuscule, mais sí estamos hablando de politique en ese sentido.
et de dire que historiquement, les intellectuels et les artistes ont toujours été impliqués dans une histoire politique, ont toujours contribué à fabriquer cette histoire politique.
Et quiere decir que siempre los intelectuales y los artistas estuvieron implicados en la historia política, contribuyeron a construir esa historia política.
Voilà, c'est un premier petit croquis, si j'ose dire, un petit dessin de.
Este es un primer esbozo, un croquis, dibujo.
Dessin avec IN et aussi EIN.
Un dibujo y un deseo.
De ce qu'on pourrait faire là ensemble pendant ces six séances.
De lo que podríamos hacer juntos aquí durante las seis sesiones que vamos a estar trabajando.
Donc, si je résume, amener un certain nombre d'idées philosophiques qui concernent le théâtre, ou l'art en général d'ailleurs, certaines d'entre elles sont élargissables.
Respecto del teatro y del arte en general.
Autrement dit, ça veut dire brosser un paysage. Des idées philosophiques, enfin une certaine histoire des idées philosophiques qui ont aidé le théâtre à se construire en Europe.
Vamos a elaborar, vamos a hacer un pequeño esbozo de las ideas filosóficas que han ayudado a construir el teatro en Europa.
Et là, ça suppose un passage par le. Là, pour le coup, c'est pas les pères, c'est les très très vieux grands-pères, les anciens, les aïeux, les pères fondateurs.
Eso significa pasar por los tatarabuelos, los. Antes de los fundadores,
je parle évidemment là des vieux grecs, hein, de Platon, d'Aristote. On ne peut pas faire l'économie de revenir un peu sur ce qu'ils ont pensé.
Hablo de los griegos, de Platón, de Aristóteles, ya no podemos saltarnos el hablar un poco de cuál fue la reflexión que ellos hicieron.
Parce que c'est très étrange à dire, mais nous pensons toujours à partir d'eux.
Porque aunque sea extraño decirlo, nosotros siempre pensamos a partir de ellos.
Même si on ne le sait pas.
Aunque no lo sepamos, conscientemente.
On pense à partir d'eux, pourquoi? Parce qu'on pense à partir de leur langue.
¿Por qué pensamos a partir de ellos? Porque pensamos a partir de su lengua.
La plupart de nos mots sont fondés dans leur langue.
La mayoría de nuestras palabras provienen de su lengua, se fundaron en esa lengua.
Tu veux intervenir? C'est tout.
Me parece curioso que la mayoría de nuestras palabras vienen de esa lengua, que es una lengua muerta.
Ah, sí.
Y entonces, nosotros reinventamos una carroña que encontramos unos siglos después y pensamos desde cómo entendieron los que encontraron esos despojos de la lengua, más que desde la lengua de los griegos de verdad, porque nos vamos con sábana.
Para poder de una forma extraña de hablar de un lobo que viene de ese lobo ahora.
Oui, c'est vrai que c'est une dépouille de la langue, mais qui est venue se sédimenter, qui est venue laisser des.
Estás hablando de otra distinta. Perdona, oui, perdona que intervenga un momento. Había otros temas que, bueno, luego volveré. No, es que me parece muy interesante porque es uno de los grandes problemas precisamente que nos planteamos con esto. Es decir, cuando, si te he interpretado bien, que no lo sé también, y si te he interpretado bien, pues, yo creo que estabais hablando de dos cosas diferentes, pero como había un referente común, se han mezclado las dos y resulta que eran dos caminos opuestos. Es decir, cuando en el pensamiento, por decirlo así, teatral, se habla de fábula, se habla de mímesis, se habla de etcétera, 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 no hace falta que insista, evidentemente, palabras griegas, antiguas, una lengua que hoy día no se habla como tal estructura lingüística, si se sigue hablando de griego contemporáneo. Pero cuando esos términos conceptuales, políticos, filosóficos, persisten en nuestra lengua, en francés, en castellano, en la lengua que sea, y persisten en filósofos, sea Diderot, sea Brecht, hablando de eso para querer explicar otra cosa, o para hacer la antifábula aristotélica, etc., no es tanto un problema de que ahí el lenguaje no expresa lo que quiere decir. Yo creo que no ese es el tema. El problema es que uno puede hablar con los mismos términos, implicando las mismas cosas, pero adaptándolas a una circunstancia momentánea, política, social, teatral, de pensamiento y de evolución de pensamiento. Yo creo que vamos a ver si consigo poner un ejemplo. a Corman, a Novarina, no le molestan al público hablar de fábula, contar una historia. Otra cosa es lo que ellos entienden por contar una historia. Ahí es donde empiezan las diferencias. Pero no es tanto un nivel de terminología, de empleo de unos términos, que evidentemente para un griego implica una cosa y para Corman implica otras, aunque recurran, y habrá un ejemplo que pondremos prácticamente muy curioso y muy difícil en castellano. Yo sigo dando vueltas y es tan difícil de traducir que es el problema de sujet y thème, que en castellano, desgraciadamente, tenemos el mismo término. El tema de una obra y el sujeto de una obra, galicismo por otra parte, viene a significar lo mismo. Y él precisamente escribe un artículo porque hace dos conceptos diferentes. Dice, me da igual la palabra. Para nosotros en nuestra lengua es una faena, porque claro, a ver, y entonces yo he tenido que hacer unos cursos para explicar. Sujet sería situación dramática a partir de, y no tema concreto o anécdota, el término griego clásico de la anécdote, es decir, lo que ha de ocurrir, lo que así es. Quiero decir que entonces yo creo que tú hablabas de una cosa y él estaba en otro lugar. Y por eso entonces no te ha entendido, me da la impresión de que no te ha entendido bien por dónde iba, ¿sabes? No sé, puedo equivocarme, pero...
Sí, ça que... Moi, je vais vous parler de l'étymologie, c'est-à-dire que nos langues sont faites des traces de langues anciennes. Et que du coup, on vit avec ces... Je suis très d'accord avec le mot dépouille, avec ces choses mortes, mais que nous continuons à traîner dans notre sac, en quelque sorte.
Y estoy de acuerdo que estamos hablando de despojos, de cosas muertas que han, pero que de alguna manera las seguimos llevando en el saco, que vienen ahí.
Si yo digo filosofía, yo digo un mot francés.
Si digo filosofía, estoy usando una palabra francesa.
Filosofía chilien.
Filosofía en castellano.
Mais nous avons en commun qu'il y a deux mots grecs là-dedans.
Pero tenemos en común que hay dos palabras griegas ahí adentro.
Qu'on traduit traditionnellement l'amour de la sagesse, ou l'amitié, le vouloir être l'ami de la sagesse.
Que la traducimos generalmente como querer ser el amigo de la sabiduría.
Alors c'est vrai que si je dis je veux être l'ami de la sagesse,
si digo quiero ser el amigo de la sabiduría,
je ne dis pas du tout la même chose que si je dis
no digo lo mismo que si digo
la dimension philosophique de ce poème.
La dimensión filosófica de este poema.
C'est pas pareil, et pourtant c'est le même mot.
No es lo mismo, que sea la misma palabra.
C'est pour ça que je dis qu'il y a dans notre langue des strates par-dessous de vieux héritages.
Por eso digo que nuestra lengua tiene estratos inferiores que provienen de otras lenguas.
Que nous ne pouvons pas éviter.
Que no podemos evitar.
Mais je renverse la chose qui pourrait paraître négative, et là c'est vraiment Novarina qui est en France un des maîtres de cette mise en chantier-là. On peut, de cette chose qui paraît négative ou lourde, on peut en faire un magnifique ressort pour la pensée.
Mais à pesar de que tengamos esta parte pesada o negativa, uno puede realmente convertirla en un recurso para el pensamiento, y revertir esa situación en lo negativo que puede tener.
C'est-à-dire que les langues sont riches d'un matériau insoupçonné.
De manière que las lenguas tienen una riqueza por un material insospechado que llevan.
Que précisément le théâtre peut venir révéler.
Y que precisamente el teatro puede revelar esa riqueza, esos materiales.
Et que nos langues, trop souvent utilisées comme des purs outils, instrumentalisés.
Que la lengua suele utilizarse en una forma instrumentalizada, como herramienta nada más.
Quand elle passe dans les mots du poète et dans la bouche de l'acteur, elle révèle des contrées totalement inconnues et magnifiques. Des contrées, des pays.
En ese momento revela París espacios totalmente nuevos y desconocidos, me imaginaba.
Voilà, c'était ça. Mais c'est bien que cela nous serve comme une petite...
Es un camino precisamente para entrar, porque son uno de los grandes temas de debate, yo creo, de lo que estaba planteando.
Camino. Que ce petit exemple nous serve de règle et de méthode pour les séances à venir.
Ah, sí.
Que à tout moment, quand il y a une question, une non-compréhension, un désaccord, une volonté de que cela soit mis dans l'espace commun, voilà, que ça soit mis sur notre table commune. Parce que ça fait avancer le débat, la compréhension, à tous les coups.
Esto que pasó recién que nos sirva de ejemplo, como una regla para el seminario. Cada vez que no se entienda algo o que alguien tenga algo que aportar, que lo tire ahí al centro, que no esté de acuerdo, que lo diga, para que eso nos ayude a avanzar en la reflexión.
Mira, por qué te lo
dije. Il avait dit aujourd'hui, je parlerai pas, je sors de l'avion.
Vengo llegando, ya no voy a hablar, no puedo hablar del avión, eso ya
es pero. No, y sobre todo, aunque sea una broma, pero no es tanto, porque yo soy muy profesional en algunas cosas. No, y aplicar, ¿no? Aplicar claramente. El trabajo de traductor es muy difícil, muy pesado y agotador. Entonces, que una persona, y lo sé por propia experiencia porque me ha tocado en algunos acontecimientos estar con cualquiera de los autores que hemos citado durante una hora con periodistas y al final te pasa, pues como le pasa a mi nena, y dices, esta palabra es la siguiente. Entonces, yo quisiera que ella descansara un poco de traducir. Yo que es. Tengo la. ¡Ahora! Se pica el coste ya. Pero bueno, no, pero él entiende bastante. Quiero decir con esto que entonces lo que nos planteábamos era que estos autores tienen una necesidad de construir no solo dramaturgia, obras de teatro, no, una necesidad de construir pensamiento, de oponerse a un cierto tipo de teatro, por defender un poco la práctica, de querer reivindicar poéticamente, utópicamente otro tipo de teatro, y a la vez están construyendo, que eso es para mí lo fundamental y que tiene Francia con respecto a otros países, están construyendo pensamiento filosófico, que es como le gusta decir a Bruno, yo diría simplemente, digamos, reflexión donde el hombre de hoy debe pensar de acuerdo a cómo ha evolucionado el mundo. Y es lo que diría tanto en los cuatro casos, o en los tres más claros. Pues claro, si volvemos un poquito atrás en la historia, podríamos hablar de Brecht. No hace falta que yo cite todo el mundo, el gran pensador, el gran práctico, el hombre que fundó esa inmensa obra teatral, que escribió obras magníficas, que reflexionó, pero no es el mismo tipo de reflexión que hacen estos autores. Es otro momento histórico, es un momento donde está el comunismo, donde termino la frase y donde se producen los estalinismos, donde él defiende otra cosa, es otro momento histórico diferente. Aquí estos autores parten de la construcción de una nueva utopía para mí. Perdón.
Esto parte de la, en el fondo de la sociología, de la pregunta del ser sobre su papel en la sociedad.
Yo creo que sí, pero. Lo estaba traduciendo Diego por Nader, ese inmenso vacío que parece que no se lo queda todo.
La sociologie, c'est une des manières de répondre et d'analyser, c'est une grille aussi pour analyser l'inscription de l'homme dans un espace commun.
La sociologie est une forme de preguntarse, de réfléchir sur la situation de l'homme en la société. Es una malla possible, un marco possible.
Et ça peut devenir du coup un des outils que la dramaturgie peut utiliser comme un auxiliaire, comme un appui, comme un point de.
C'est une des herramientas ou des points d'appui qu'utilise la dramaturgie pour avancer, pour desarrollarse.
Mais c'est intéressant de parler du socius, donc tiens, sociologie, socius, le lien. C'est évidemment une des questions théâtrales essentielles, c'est même peut-être une des plus profondes, c'est comment je me lie à d'autres.
C'est intéressant de parler de la sociologie des socios, qui a à voir avec la relation entre les personnes, comment me relationne je avec les autres, quand on parle de théâtre.
L'espace théâtral ne parle que de ça.
L'espace théâtral ne parle d'autre chose plus que de ça.
Pas seulement les pièces de théâtre, mais l'espace dans lequel on les joue. Je reviens à mon affaire du cercle, qui est une hypothèse. Mais si vous prenez le théâtre à l'italienne, en Europe, tous ces rois sanguinaires, complètement absolutistes, qui ont du sang qui coule par-dessous leur.
Sanguinaire, absolutiste, qui corria la sangre por debajo del niño.
Il renverse l'épée en un gant de velours en installant la représentation de leur puissance dans un théâtre où on cache tout, où on ne voit plus que l'homme de cour, l'homme d'élégance, l'homme des bonnes manières, l'homme de. C'est ça le théâtre du XVIIe, c'est montrer qu'on qu'en fait, on est absolument un modèle de civilisation, alors qu'on est en train de faire la guerre partout, au dehors.
Estos reyes hacen como por un acto de magia, transforman la espada en un guante de terciopelo. Y estos teatros se transforman en un lugar donde se muestra lo civilizados que somos, a pesar de que en ese momento en Europa hay guerras por todas partes. Se aparecen estos hombres también vestidos y toda esta civilidad.
Que
es el teatro del siglo XVII, pero que es como lo civilizados que somos frente o detrás de toda esta cantidad de sangre que corre de guerra.
Y por eso hay un espacio particular para asumir ese mensaje-là.
Para montar esa mentira se necesita un espacio particular.
On y reviendra quand on analysera les espaces, mais c'est tout à fait le contraire de l'espace circulaire, c'est que le roi est placé dans un point singulier de l'espace où il voit tout sans être vu. C'est totalement le contraire.
Es todo lo contrario de lo que estamos planteando aquí del círculo. En ese caso está el rey en un lugar en el cual él ve todo sin ser visto.
Donc tu as tout à fait raison quand tu parles de sociologie de dire que le théâtre c'est toujours une manière de réfléchir à la manière de se rassembler.
Y tienes razón cuando hablas de sociología porque el teatro también es una forma de reflexionar en torno a la forma en la que uno se reúne.
Et pour rebondir sur ce qu'a dit Antonio, pour produire un espace qui soit un...
Antonio,
pourquoi je t'appelle Antonio? Fernando. Non, pour rebondir sur ce qu'a dit oui. Fernando, non seulement il s'agit de réfléchir sur l'espace qui nous unit, mais sur la production d'un autre espace, d'une utopie, d'un topos qui ne soit pas cet espace qui nous unit.
Sino también reflexionar sobre otro espacio, sobre la utopía, sobre ese otro espacio, sobre ese topos que nos une.
Parce que utopie, en fait, U, c'est l'alpha privatif, c'est-à-dire l'absence de tout lieu.
La utopía es la ausencia de todo lugar, es l'alpha privatif.
Donc le théâtre est cet espace qui cherche l'espace sans espace.
Si on veut faire une formule. Le théâtre est l'espace qui busca ese espacio sin espacio.
Y lanzo ya un término, porque va a ser un segundito ese asunto. Un término del cual hablará mucho en Chocorman, del cual nos viene al pelo para la sociología, para la política, para lo que hemos hablado de terminología, para todo, que es el término asamblea. Fijaros qué curioso qué término, ¿eh? A lo mejor vosotros no recordáis aquellas asambleas de los mineros. Yo sí recuerdo mis asambleas universitarias día a día. Bien, no, pero cuidado, no, digo la palabra y lo digo muy conscientemente, porque Corman hablará constantemente de asamblea teatral para implicar un nuevo tipo de teatro, de compromiso personal, etcétera, etcétera, donde yo me siento igual que el otro, es lo mismo que está diciendo él desde otro punto de vista, pero es una palabra, una mortaja de palabra, porque ha perdido en un momento dado su significación en algunos países, España, Chile, etcétera, y que de nuevo es un francés el que me revierte a mi mirada desde España y me pone de moda, perdón, de frivolidad, digamos, y me saca de nuevo a la palestra un término que es asamblea teatral para que yo entienda un nuevo concepto de entender el teatro, de hacer un nuevo teatro, de sentirme implicado con la sociedad que quiere un cierto tipo de teatro y que me va a hablar en las mismas condiciones tú actor a mi espectador, yo espectador, porque tú serás el delegado de esta asamblea en cuanto que interpretarás, como que me estoy avanzando lo que él va a contar luego, porque interpretarás como autor o como actor lo que es necesario por mí, integrante de la asamblea. Fijaros qué bonito y cómo, de nuevo, un término tan viejo como la propia Grecia renace con otro contenido y con otra proyección que implica multitud de cosas, ¿no? Fijaros que lo dejo ahí porque será un término que saldrá mucho y que será un nuevo modelo de teatro en su pensamiento.
Antonio,
dime.
Porque Antonio va a hablar de...
He dicho Antonio y ahora, bueno, ya. Algo tenemos con algún Antonio escondido por ahí.
Y hay una pregunta.
Sí. A mí me gustaría saber si...
Qui a été complètement passé à la trappe à cause de cette mise en avant de Brecht et de ses épigones.
Et qui a été totalement descartado, dejado de lado par cette apparition de Brecht et de ses épigones.
Alors aujourd'hui, c'est un peu le phénomène contraire, c'est qu'on en a eu marre de Brecht, qu'on a un peu mis normal, toutes les générations détruisent. Bon, à Brecht est maintenant un peu secondaire, disons. Mais du coup, le dramaturgiste a aussi.
Y en este momento ha pasado un poco lo contrario, estamos todos hasta aquí con Brecht y ha quedado un poco así, pues agarrado la cola. Y también ha pasado un poco eso con los dramaturgistas.
Parce qu'on a considéré que, on a considéré que le dramaturgiste a été un peu le gendarme du sens, le flic du sens. Y
nos pareció que de alguna manera los dramaturgistas eran como los pacos del sentido.
Il faut penser ça et pas ça. Il y a eu un peu cette tendance-là, il faut le reconnaître.
Hubo un poco esa tendencia, pero cuando se...
Sí, el año pasado, cuando estaba en Socorman, no aquí, sino allá, él hablaba de la dramaturgia, pero de la escritura de teatro, como la creación y la observación de una lengua. Y yo pensaba que esa relación con esa palabra muerta, heredada de los griegos hasta ahora, era radicalmente distinta en Francia que en Chile o en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, en Chile hay un informe de la UNESCO según el cual un gran porcentaje de los chilenos es incapaz siquiera de entender las instrucciones de un frasco de remedio. Sí, sí. Y eso está...
Pero ¿cómo hace así?
Y eso es, y yo he trabajado un poco con desarrollo de lenguaje en niños y jóvenes y he constatado lo mismo. Entonces, la relación que se establece con la comprensión racional de un lenguaje o con las emociones que se despiertan por la observación racional de un lenguaje son distintas o establecen posibilidades distintas. Y en la poesía de la segunda mitad del siglo XX en Chile y también en la dramaturgia, uno ve una recreación del lenguaje, pero que o bien se vuelve contra la tradición de un lenguaje racional, en el caso de...
De un
lenguaje académico y racional, o de la lengua de Quevedo, por ejemplo, o la toma, pero con mala leche.
Mala leche, cretino, ¿cómo es?
Que la retoma, pero con mala leche. Entonces, esa relación que se establece, creo, a lo mejor no, esa relación que se establece con la lengua es también la misma que se establece con la tradición teatral en la escritura. Es decir, que la forma en que toma Corman el Rey Lear se transforma en Latinoamérica en la forma en que Marco Antonio de la Parra toma a Dostoyevsky, que lo transforma en un detective privado epiléptico. Porque no podemos mirar la historia con la misma continuidad, porque no podemos ni entender un frasco de remedio.
No, eso necesitamos la prueba. Sí, la prueba.
Yo también lo
tengo.
No,
sí, eso no es.
Si la gente va a decir todo, no.
Y se intoxican y se equivocan. Y por eso los dependientes de farmacia explican.
Así voy a ir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
pour être sûr que j'ai bien compris, tu veux dire que Marc-Antonio Lapalla, il fait un travail d'actualisation
de notre question. Non, non, non.
Il veut dire que la situation est très médiatisée, qu'on est très loin du sensible. Non, c'est bien.
Sintetiza en una frase.
No, pero no me escucha tanto al final. Que on est loin de la tradition, et finalement, quand Enzo parle de l'héritage, il parle de quelque chose qui lui appartient.
Entonces, sí.
Sí.
Sí, habla de una cosa que le pertenece, a nosotros también nos pertenece.
Me trae...
Pero nos, pero nos pertenece.
Más complicado que todo eso, reivindicar esa obra.
No estoy ni simplificando a Corman ni a Marc Antonio.
Je pourrais te répondre que le roi Lear, c'est un anglais, un anglais du très vieux siècle que Enzo n'a pas connu. Dans une langue qu'il ne connaît pas, c'est aussi très distancié.
Le
rey
Lear
est une chose
très distancié.
Et qui passe à travers l'Allemagne dans un camp de
concentration. Et qui en plus se retrouve en Allemagne dans un camp de concentration.
C'est pour compliquer l'histoire.
Mais il y a une relation, creo, me parece, de continuidad, de relectura et de utilisation de iconos théâtrales pour interpréter la histoire de l'Occidente.
D'accord. Il y aurait une appartenance commune qui serait liée à l'Europe.
Il y aurait une appartenance commune. Comme
que l'Europe, aunque l'Europe pour les Européens, non, l'Europe pour nous.
Si, je comprends.
Et depuis Chile, donc, la relation est différente.
Sí, pero yo pediría que volviéramos a una discusión que estuviera más cerca de los estudiantes, realmente. Porque están un poco, yo siento colgados de lo que se está conversando. ¿O no? ¿Está bien? Porque a mí me preocupa cuando veo que preguntan qué pasó en 68. O sea, yo digo, estamos a
no ver, eso lo explicamos también.
No nos vayamos tan lejos, porque si no, no tiene sentido.
Moi, je voulais juste terminer de donner un point. Après, moi, mon idée, c'est de vous donner la parole parce que je ne vais pas monologuer comme ça pendant.
Sí, yo no quiero monologar aquí durante horas, así que después de mis cuatro puntos, quería volver con ustedes, darte la palabra.
Cela dit, le fait de commencer à réagir, c'est déjà une manière de savoir quelque chose de vous.
Y también la forma en que ustedes reaccionan, las reacciones que veo, es una forma de saber también de ustedes.
Mais effectivement, je termine donc. C'est juste une reprise. Hein. Je voulais donc. Poser comme ça ces jalons d'une histoire de la réflexion philosophique.
Los hitos así como esta historia de la reflexión teórica.
Encore une fois, pour montrer comment elle travaille le répertoire théâtral.
Para ver cómo trabaja el repertorio teatral.
Et que c'est une manière d'en comprendre quelque chose de ce répertoire.
Y que esta dimensión filosófica es una forma de entender, una manera de entender este repertorio teatral.
La deuxième chose qu'il m'apportait de d'explorer avec vous, là aussi ce sont des choses très superficielles, il faudrait chacune de ces choses les approfondir, mais disons que ce seront des pistes lancées, il s'agira de réfléchir sur les liens entre l'instauration d'un acte théâtral et son implication politique.
El segundo punto que me interesaba era la instauración de un acto teatral y sus implicancias políticas. Estos son como grandes pistas que nos van a servir para ubicarnos en estos días. No, no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas.
Il y a dans tout acte théâtral une nécessité politique. C'est ça l'hypothèse de départ.
En todo acto teatral hay una necesidad política. Esa va a ser una de las hipótesis de partida.
Pareil, comme pour la philosophie, même si ça ne parle pas de politique.
Al igual que en la filosofía, aunque no estamos hablando de política en sentido estricto.
Même si ça ne parle pas de politique.
Aunque no se esté hablando de política.
Il y a actuellement, j'aime bien donner des exemples concrets toujours quand je parle, c'est pas bien de parler en général.
A mí me gusta dar ejemplos concretos cuando hablo, no me gusta hablar en general. O sea, hay un caso concreto ahora.
Il y a un groupe de musique, de chanteurs et musiciens en France qui vient d'être jeté dehors par la municipalité.
Un grupo de cantantes de músicos en Francia que acaban de ser echados por la municipalidad.
Juste parce qu'ils ont refusé d'aller au bout de leur concert en désaveu de la politique nationale menée par le gouvernement français. Ils n'ont pas voulu aller au bout du concert.
Ils quisieron terminar el concierto porque estaban en contra de una política que estaba haciendo la política del Estado. No llegaron al final del concierto.
Et comme ce concert était donné devant la municipalité, ça leur a pas plu.
Y como el concierto estaba delante de la municipalidad, no les gustó.
Ça faisait un peu désordre.
Así era como desordenado un poco.
Mais vous voyez, quelquefois c'est politique, ils n'ont pas besoin de parler de politique. Juste ils disent, on arrête, on peut que faire notre travail.
No es un acto político, pero tiene un sentido político. Y dicen, nosotros nos paramos aquí y no vamos a seguir. Nos seguimos haciendo nuestro trabajo.
Et le lundi matin, cette administration de la municipalité a décidé de les mettre dehors. Ils avaient un studio de répétition, ils avaient des subventions, tout a été supprimé.
Y el lunes, la persona que estaba a cargo de la municipalidad le cortó las subvenciones, lo sacó de ahí donde tenían un estudio de grabación, un estudio para trabajar. Se acabó todo el lunes.
C'est bon, malheureusement, ça semble anecdotique, mais malheureusement, ça ne l'est pas. C'est, je crois qu'il y a profondément entre le politique, le pouvoir politique et le théâtre, les formes scéniques, un désaveu et un divorce et un discord, un désaccord profond.
Y aunque esto parezca una anécdota, una cosa anecdótica, creo que en el fondo refleja un desacuerdo, un divorcio muy profundo que hay entre lo político y las artes escénicas.
Ce ne serait pas aussi que, par exemple, le politique a toujours voulu utiliser l'art
oui. pour arriver à ses fins.
Bien sûr, c'est une des explications. Hein. Ouais, non, mais là, je donne des très très larges, très grossiers. Troisième volet, donc, qui va nous occuper au fur et à mesure du calendrier, quand nous aurons vu les formes scéniques présentées, c'est de réfléchir à partir, alors pour te répondre très concrètement, réfléchir sur les pièces que nous allons voir, sur les propositions dramaturgique que nous allons voir comme outil, comme prétexte à la réflexion, comme aussi des travaux pratiques en quelque sorte, pour ne pas rester dans des généralités. Le fait de pouvoir voir en acte une pièce d'Olivier Py, ça me paraît extrêmement révélant.
Proponerles para hacerlo más preciso, Inés, después lo veo contigo, de entregarte a ti invitaciones para todos los alumnos que están acá para que vayan tanto a la obra de ti como a la de Melchior.
Ya.
Sí, porque era todo un enredo.
Un tercer punto que es muy importante es que podamos reflexionar sobre las obras que se van a presentar esta semana en el festival. Para que la reflexión se arraigue en cosas bien concretas, digamos. Tengamos esos ejemplos, vayan a ver las obras y podamos conversar.